Bonjour. Il m'était juste ce matin de vous présenter Marc 13. Marc 13, certainement le chapitre le plus difficile de l'évangile de Marc. On voit souvent dans Marc 13 une annonce de la fin du monde. On l'appelle parfois la petite apocalypse. Alors, Daniel, dans quelques chapitres de son livre, et l'Apocalypse de Jean, sont aussi centrés sur les persécutions. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ce chapitre 13 aussi. Mais en observant bien, on s'aperçoit qu'on est plus dans le registre du sens que dans celui de la chronologie. Alors on va lire Marc 13. Comment on fait pour changer ce truc-là? Si j'appuie là. Et j'appuie là, ça fait rien. On appuie sur lequel? À gauche. Et à droite. Ah! Marc 13. On est juste à deux jours avant la Pâque, celle qui verra la crucifixion. Et Jésus quitte le temple et il n'y reviendra plus. Or, lisons. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Alors, si ça marche, le temple. Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Alors la prédiction que fait Jésus sur la destruction du temple, vous savez, ce temple, il a fallu 42 ans pour le bâtir, soulève tant de questions que les quatre disciples l'interrogent en privé au sujet du moment et des signes qui annoncera la fin du monde. Parce que pour les Juifs de l'époque, la destruction du temple, c'était la fin du monde. Alors voyons sa réponse. Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. » Puis il continue « Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas prendre quelque chose dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes ce jour-là, à celles qui allaiteront. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Alors vous avez remarqué, Jésus ne répond pas directement à la question. Il leur dit, prenez garde, ne vous laissez pas séduire. Parce que c'est ça l'important, le plus important. En fait, Jésus remet en place l'ordre des priorités. Et puis il continue par un discours prophétique. On est à la veille de sa mort. Ce discours-là, c'est peut-être un peu un testament. Ce discours contient des instructions et des encouragements. Il exhorte les disciples et l'Église à venir à la foi et à l'obéissance quand surviendront les épreuves. Et le signe qu'il donne, c'est la présence d'une abomination, signe qu'avait déjà annoncé Daniel. C'est-à-dire peut-être du pouvoir romain qui profane le temple. Il presse aussi ses disciples, mais pas que ses disciples, aussi ses compatriotes, à fuir Jérusalem au lieu de défendre la ville au nom d'une espérance messianique mal comprise. Alors jetons un petit coup d'œil sur le contexte historique de ces événements. Les Romains occupent la Judée depuis l'an -62, -63, donc environ depuis un siècle. Et le temple sera incendié au cours de la reprise en main du pays après la révolte de 66, puis détruit en même temps que la ville, qui a été prise le 25 septembre 70, après 5 mois de siège. Alors la cause de cette révolte, c'est un sacrifice païen qui a eu lieu devant la synagogue de Césarée, et puis aussi le détournement de quelques 500 kilos d'argent du trésor du temple par le procurateur. En l'an 68, l'empereur Néron a été assassiné, ce qui interrompt la guerre. Pas pour très longtemps, parce que Vespasien a affirmé son pouvoir, et puis il envoie son fils Titus, secondé de Tibère-Alexandre. Tibère-Alexandre, il était famille juive, entre autres. Juif d'Alexandrie, je crois. Il les envoie pour mater la révolte avec entre 50 et 80 000 hommes. Les combattants juifs, eux, étaient 23 000. Mais en plus, les juifs, c'est un peu comme les Gaulois, ils étaient un peu divisés. Alors, pour en finir avec l'histoire, après la chute de Jérusalem, des révoltés juifs se réfugient à Massada. Vous savez, c'est un écran rocheux qui est en face de la mer Morte, qui surplombe la mer Morte. Massada sera prise 3 ans plus tard, après le suicide collectif des défenseurs qui ne voulaient pas tomber aux mains des Romains. Alors il semble donc que la prophétie de Jésus se rapporte à ce qui est arrivé à Jérusalem quelques décennies plus tard. Donc. Mais comme nous montre la suite du chapitre, elle ne se rapporte pas qu'à cela. Comme pas mal de prophéties de l'Ancien Testament, elle est quelque part à double détente. Elle prévoit d'abord un événement proche, et puis un autre beaucoup plus lointain. Et en l'occurrence, l'autre, c'est le jour du Seigneur, le retour de Christ. Lisons la suite. La détresse, en ces jours-là, sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé, à l'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra ses anges, il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Cette suite semble se rapporter à une période plus lointaine, lors du retour de notre Seigneur, retour glorieux, avec des précisions sur des événements cosmiques qu'elle fait part, qui nous rappellent des textes. Joël avait dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. » Ce jour grand et terrible. Ça rappelle aussi la révélation de Jean. Le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et puis Pierre dit, les cieux passeront avec fracas. Et puis la suite, c'est Jésus qui parle de ce qui est certainement le plus important, ce qu'il veut enseigner à ses disciples et à nous. Ce pourquoi il a dit tout le reste. Alors voyons la fin de ce chapitre. Instruisez-vous de la comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles, elles, ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Personne, sauf le Père, ne connaît l'heure. C'est étonnant ce que dit Christ là. Il le dit à ses disciples, et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Alors moi, je ne comprends pas bien, parce qu'il y a un problème avec son omniscience, là. Enfin, le Père seul connaît. Mais si personne ne connaît, alors on doit veiller constamment. Luc, dans le récit de cet événement, situe ce moment du retour à une date ultérieure, après le temps des nations. Luc dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Le figuier, c'était l'emblème d'Israël. Vous vous souvenez, au chapitre 11 de Marc, la malédiction sur le figuier stérile ? C'était un peu une parabole. Le peuple n'avait pas répondu à l'attente du Seigneur, et il annonce ainsi son jugement. Mais à notre époque, depuis, c'est quoi, 1948, hein, Israël a retrouvé la terre promise, celle qui était promise par l'Alliance, de façon éternelle. Les feuilles du figuier poussent sous nos yeux. Le Fils de l'homme est proche. Vous avez remarqué que Jésus annonce des séismes. Les statistiques montrent un doublement des séismes ces 50 dernières années. Je ne sais pas si on peut en tirer une conclusion. Quant aux guerres, alors je ne sais pas si elles sont plus fréquentes qu'avant, mais les bruits de guerre deviennent permanents en tout cas. C'est peut-être que l'effet de l'efficacité de l'information, mais n'empêche que les bruits de guerre sont permanents. Jésus ne faisait pas miroiter à ses disciples un avenir étincelant. Il parlait de l'époque où vivaient les premiers lecteurs de Marc, en vérité, l'époque que nous vivons aussi. Jésus, quand il parlait de guerre, de tremblements de terre, des famines, voyait le début des douleurs de l'enfantement. Les événements prophétisés annoncent des événements douloureux, l'avènement douloureux d'un temps nouveau. Et ce temps nouveau, il arrive, il advient, même si les forces des temps anciens se rebellent et luttent pour empêcher cet avènement. Et Jésus utilise ces prédictions de détresse pour fonder l'espérance. Nous sommes invités à porter nos regards sur lui. Et moi, ces paroles de Jésus me réconfortent. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles, elles, ne passeront pas. Alors le terme génération est aussi un peu ambigu. Il peut être pris dans le sens de génération, comme on le connaît, ou dans le sens de race, nation ou descendance. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher. Alors je ne vais pas épiloguer sur les temps de la fin. D'abord, j'en suis pas capable. Je vais essayer de faire ressortir l'enseignement de Jésus sur les dangers qui nous guettent. Qui nous guettent dans cette période de transition et de tumulte qui précède le retour de Christ. Trois dangers. Le danger d'être séduit par les faux Christ et les faux prophètes. Le danger de se laisser ébranler par les persécutions à cause de la foi, puis le danger d'être trouvé inactif au jour de son retour. Mais avant de considérer un peu plus en détail ces dangers qui nous guettent et qui guettaient les disciples, on doit se poser une question importante. Pourquoi les disciples doivent-ils prendre garde à ces choses ? Et Jésus offre une seule réponse à cela. Prendre garde pour accomplir sa mission. Cette mission consiste à travailler à la proclamation de la bonne nouvelle à toutes les nations. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Rien ne doit arrêter les disciples, rien ne doit nous arrêter dans l'accomplissement de cette mission. Et pour cela, il faut prendre garde de ne pas se laisser séduire par les faux prophètes, les faux Christ, de ne pas se laisser abattre par la férocité des persécutions ou par le découragement engendré par l'attente du retour de Jésus. On doit prendre garde aussi que rien ne nous ralentisse dans notre effort pour accomplir la mission. Alors ces dangers, le danger d'être séduit. L'histoire des Juifs relate que des faux prophètes et des faux messies avaient réussi à séduire les habitants de Jérusalem en leur faisant croire qu'ils allaient triompher de la puissance romaine. Ces faux prophètes ont à plusieurs reprises tenté de provoquer des révoltes. Chaque fois, ces révoltes ont été étouffées par les soldats romains. On rapporte même que lors de la destruction de Jérusalem par Titus, un faux prophète avait séduit 6 000 juifs en leur assurant qu'au dernier moment, Dieu viendrait à leur secours. Ils s'étaient tous enfermés dans les bâtiments qui étaient à côté du temple. Ils ont tous été tués. Au moment de la prise de Jérusalem, donc en 70, les chrétiens ont profité d'un moment de répit de l'armée romaine pour prendre la fuite à l'extérieur de la ville. Ils avaient pris garde, ne s'étaient pas laissés séduire. Ils connaissaient les paroles de Jésus. Ils avaient su lire les signes avant-coureurs de cet événement tragique. Alors aujourd'hui, depuis le début de l'Église même, il y a eu beaucoup de faux Christs, de faux prophètes. C'est encore vrai maintenant. On peut nommer quelques personnages qui ont agi comme des faux prophètes ou comme des faux Christs, qui ont attiré à eux des milliers de personnes. Charles Russell, je crois que j'ai le français sourcil, fondateur des Témoins de Jéhovah. Le révérend Moon. Bon. Joseph Schmitt, les Mormons. Chez nous, Gilbert Bourdin, le mandarin. Plus dramatique, Jim Jones, le suicide collectif dans la jungle. Plus de 900 personnes en 78. Puis plus proche, en 95, Guy Mambro, l'ordre du Temple solaire. 16 personnes immolées par le feu à côté, là, dans le Vercors. L'exhortation de Jésus de prendre garde est toujours actuelle. Alors, si les premiers chrétiens et ceux d'aujourd'hui ne sont pas laissés séduire, c'est parce qu'ils ont retenu l'avertissement de Jésus. Ils ont pris garde. Nous sommes aussi invités à prendre garde. Le danger de se laisser ébranler par les persécutions. La tradition chrétienne raconte que presque tous les apôtres sont morts en martyrs. Pierre est mort crucifié à Rome, la tête tournée en bas. André, son frère, a été crucifié sur une croix en forme de X, la croix de Saint-André. Jacques, le frère Jean, décapité sous l'ordre d'Hérode. Matthieu, tombé transpercé par une lance. Philippe, lapidé. Simon le Zélote, découpé à la scie. Barthélemy a été crucifié, puis écorché vif, puis enfin décapité. Il a tout eu. Thomas, selon la légende, transpercé par une épée. Thaddée, mort martyrisé. L'apôtre Paul, mort en 67, sans doute décapité. Tous ces apôtres, sans exception, sont morts à cause du nom de Jésus. Ils sont morts dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont pris au sérieux l'avertissement de Jésus de prendre garde à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas renié le Christ, même dans la persécution et la mort. Ils savaient que toutes ces choses devaient se produire. Encore plus, ils savaient, selon la parole de Jésus, que la persécution serait un moyen de rendre témoignage devant les rois, devant les gouverneurs, devant tous les grands de ce monde. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Et aujourd'hui, comme alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, dit Paul à Timothée. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont persécutés de nos jours. On liste l'Irak, le Pakistan, l'Iran, les territoires palestiniens, l'Ouzbékistan, l'Indonésie, le Soudan, la Turquie, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, l'Inde, le Laos, le Nigeria, j'en passe. Il y a même des réfugiés chrétiens qui sont passés par-dessus bord. Si tous ces chrétiens peuvent rester persévérants dans l'épreuve, c'est parce qu'ils ont pris au sérieux l'avertissement de la persécution, l'avertissement de prendre garde, de ne pas abandonner la foi à cause de tous ces malheurs qui leur tombent dessus. Et c'est aussi à cause de la parole de Jésus qui dit que la persécution sert quelque part à la bonne nouvelle, au témoignage. On conçoit habituellement la persécution comme un signe de retour proche du Christ. C'est vrai, mais Jésus veut surtout transmettre à ses disciples que les persécutions sont une caractéristique de l'époque, de la période de son départ à son retour. Alors ne comptons pas que la persécution s'arrête. Enfin, le dernier danger, celui d'être trouvé inactif. Trouvé inactif au moment du retour de Christ, parce qu'on ne s'y est pas préparé. C'est pas ainsi que Jésus veut trouver ses serviteurs à son retour. Il ne veut pas nous retrouver inactifs parce que noyés par les soucis du monde, comme l'enseigne un peu la parabole du semeur. Le fait de ne pas connaître le moment du retour devrait nous inciter à ne pas rester inactifs, à veiller. Veiller pour accomplir sa mission, chacun à sa place, chacun avec sa responsabilité, le portier à la porte qui veille. Or, pour conclure, la grande question pour nous aujourd'hui dans nos pays, c'est de rester vigilant. Est-ce qu'on prend garde à notre foi devant les menaces que sont la séduction, la persécution et l'inaction? Alors, on pourrait certainement débattre sans fin sur les diverses interprétations du texte de Marc 13, pour essayer de déterminer quand Christ viendra, mais est-ce que ça a un intérêt? Ce qui est sûr, c'est que pour nos frères qui sont au sein des persécutions, leur conviction à ce sujet n'a que très peu d'importance. Ce qui compte, c'est de prendre garde à sa foi, de se tenir debout. Et même cela, on n'en est pas capable tout seul. Hein. Mais confiance, Dieu dit de ses serviteurs, il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alors pour cette semaine, je vais vous laisser le dernier verset de ce chapitre comme feuille de route. Je vais nous laisser. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen.